Chapitre 12. Épaves et navires esclavagistes. Sous l'eau, pas seulement le temps d'un souffle, restant au ras de la surface malgré le passage d'une vague, mais la tête en bas, les cheveux ondulants, les poumons n'aspirant que de l'eau salée. Je suis noyé, je suis mort, se dit-il, noyé et mort comme avant. Devant lui ne s'ouvrait que l'univers éclairé de verre, des poissons et de la mer. Il lui ouvrit les bras, les laissa pendre sous ses épaules et bouger au gré des vagues. Il voulait être mort. Mais c'était une escroquerie comme toujours. Tout ce qu'il désirait, c'était arrêter, cesser d'être. Mais on ne lui permettait jamais. Même ici, sous les eaux, ces ponts exempts du bruit des pas et des ordres, ces cales pleines d'eau salée et de silence, la paix n'existait pas. L'ennui, oui, mais pas la paix. Les bancs argentés des poissons lévitaient. Ils venaient vers lui comme des phalanges d'oiseaux marins, puis viraient soudain, toujours en formation, lorsqu'il percevait le bois sorcier impie de ses eaux. Il se déplaçait seul dans un monde de sons atténués et de couleurs délavées, sans respirer, sans dormir. Puis vinrent les serpents. Ils étaient attirés apparemment, à la fois repoussés et fascinés par lui. Ils se moquaient de lui, l'observaient en ouvrant et refermant leur gueule pleine de crocs tout près de son visage et de ses bras. Il voulut les chasser, mais ils se mirent à le houspiller, et ses poings avaient beau les frapper de toute leur violence, ils ne paraissaient rien ressentir de plus que le faible coup de queue d'un poisson. Ils parlaient de lui entre eux à grand barrissement qu'ils comprenaient presque. C'était le plus effrayant, qu'il les comprît presque. Il le regardait droit dans les yeux, enlaçait sa coque dans leurs étreintes sinueuses, le serrait d'une façon à la fois menaçante et qui lui rappelait il ne savait quoi. Le souvenir rôdait aux confins de sa mémoire, vestige trop familier et trop terrifiant pour être rappelé à la surface. Ils l'étreignirent et s'enfoncèrent avec lui toujours plus bas, si bien que la cargaison enfermée en lui et plus légère que l'eau le déchira pour se libérer. Et encore et toujours, ils l'accusaient avec une furieuse exigence, comme si leur colère pouvait l'obliger à les comprendre. Parangon ? Il émergea en sursaut d'une vision qui plongeait l'enfer éternel des ténèbres. Il ouvrit les yeux. Malgré les années passées, il essayait encore pour voir qui s'adressait à lui. Gêné, il baissa ses bras levés et les croisa dans un geste protecteur sur sa poitrine balafrée pour y dissimuler sa honte. Il avait l'impression de reconnaître la voix. « Oui ?» demanda-t-il d'un ton méfiant. « C'est moi, Althea. Ton père va être très en colère s'il te trouve ici. Il va te gronder ?» Ça, c'était il y a très longtemps, Parangon. Je n'étais qu'une petite fille alors. Je suis venu te voir plusieurs fois depuis, tu ne t'en souviens pas?
Si, je pense. Tu ne viens pas souvent. Et ce que je me rappelle le mieux, c'est ton père qui nous criait après quand il t'a découverte en ma compagnie. Il m'a traité de « saleté d'épave » et de « pire porte-guigne qu'on puisse trouver ».
Elle paraissait presque honteuse en répondant « Oui, je m'en souviens aussi très bien. »
Sans doute pas aussi clairement que moi. Mais d'un autre côté, tu as sûrement plus de souvenirs à te rappeler.
Il ajouta d'un ton irrité. On n'en acquiert guère quand on est échoué sur une plage. Je suis sûr que tu as vécu bien de grandes aventures en ton temps.
Sans doute. J'aimerais pouvoir m'en rappeler une.
Il l'entendit s'approcher. D'après le secteur d'où venait sa voix, il estima qu'elle s'était assise sur un rocher de la plage. Tu évoquais ce dont tu te souvenais. Quand j'étais petite et que je venais ici, tu me racontais toutes sortes d'histoires.
Des mensonges, la plupart, sans doute. Je ne me rappelle rien. Peut-être à l'époque, mais plus aujourd'hui. Je crois que mon esprit devient confus. D'après Brashen, ce pourrait être parce que mon journal de bord a disparu. Il dit avoir l'impression que je ne me rappelle pas autant de mon passé qu'autrefois. Brashen ? Il y avait une surprise aiguë dans sa voix. Un autre ami ? Répondit Parangon d'un ton insouciant. La choquée en lui apprenant qu'il avait un second camarade lui plaisait. Parfois, il s'irritait de ce que ses visiteurs l'imaginent heureux de leur venue, comme s'ils étaient les seules personnes qu'il connût. Mais si c'était vrai, il n'avait pas à s'en sentir si sûr, comme si une épave comme lui n'était pas capable d'avoir fait d'autres connaissances. « Ah !» Au bout d'un moment, Althea ajouta. « Je l'ai beaucoup côtoyé. Il servait sur le navire de mon père. »«
Ah oui,
la Vivacia. » « Comment va-t-elle? S'est-elle éveillée ?»« Oui, il y a 2 jours seulement. »«
Vraiment? Alors je m'étonne que tu sois ici. J'aurais cru que tu aurais préféré rester avec ton bateau. »
Brashen lui avait appris tout ce qui s'était produit, mais il éprouvait un curieux plaisir à obliger Althea à lui raconter.
« Ce serait sûrement le cas si c'était possible, » reconnut la jeune fille à contre-cœur. « Elle me manque terriblement. J'aurais tellement besoin d'elle en ce moment. »
Sa franchise prit Parangon par surprise. Il avait pris l'habitude de considérer les gens comme des bourreaux involontaires. Ils pouvaient se déplacer librement et mettre fin à leur vie quand ils le décidaient. Aussi avait-il du mal à comprendre qu'elle pût ressentir un chagrin aussi profond que l'indiquait sa voix. L'espace d'un instant, quelque part dans le labyrinthe de sa mémoire, un jeune garçon atteint du mal du pays sanglota sur une couchette. Parangon ramena brutalement sa conscience sur l'instant présent. « Parlement, » proposa-t-il à Althea. Il n'avait pas vraiment envie d'entendre le récit de ses malheurs, mais c'était au moins un moyen de maintenir les siens à distance. Sa surprise s'accrut quand elle obéit. Elle parla longtemps. De tout, depuis la trahison de Kyle Havre envers la confiance de sa famille, jusqu'à son deuil incomplet de son père. Tandis qu'elle s'exprimait, il sentit la dernière chaleur de l'après-midi se retirer et la fraîcheur de la nuit monter. À un moment, elle quitta son rocher pour venir s'adosser au végrage argenté de sa coque. Elle cherchait sans doute à profiter de la chaleur du jour qui s'attardait dans son bois. Mais la proximité de son corps suscita aussi un plus grand partage de ses paroles et de ses sentiments. C'était presque comme s'ils étaient parents. Se rendait-elle compte qu'elle cherchait sa compréhension comme s'il était sa propre vive neuf? Non, sans doute, se dit-il âprement. Il lui rappelait probablement la Vivacia, tout simplement. Et elle étendait ses émotions à lui. C'était tout. Il ne comptait pas vraiment pour elle. Il ne comptait vraiment pour personne. Il se força à ne pas l'oublier, ce qui lui permit de rester calme quand, après un temps de silence, elle déclara « Je n'ai nulle part où dormir cette nuit. Pourrais-je coucher à bord ?»«
Il doit y régner un désordre nauséabond, » la prévint-il.
« Oh, ma coque est encore assez saine, mais il n'y a pas grand-chose à faire contre les tempêtes. » Quant au sable soufflé par le vent et aux poux de plage, il pénètre partout.
« Je t'en prie, Parangon. Ce n'est pas grave. Je trouverai sûrement un coin sec pour m'y rouler en boule. »«
Très bien, » dit-il.
Puis il dissimula son sourire dans sa barbe en ajoutant « Si tu ne vois pas d'inconvénient à partager ton espace avec Brashen, il revient ici tous les soirs, tu sais. »«
Ah bon ?»
On sentait de la consternation dans sa voix.
Il s'installe ici presque chaque fois qu'il fait relâche à Terrilleville. C'est toujours pareil. La première nuit, c'est parce qu'il est tard, qu'il est ivre, qu'il n'a pas envie de payer une nuit entière dans une auberge pour quelques heures de sommeil et qu'il se sent à l'abri ici. Et il me récite toujours la même chanson. Il va économiser sur son salaire et n'en dépenser qu'un peu cette fois. Si bien qu'un jour il aura mis assez de côté pour monter sa propre affaire. »
Parangon se tut pour savourer le silence choqué d'Althea. Il ne s'y tient jamais, naturellement. Chaque nuit, il rentre en titubant, les poches un peu plus vides, jusqu'à ce que tout son argent ait fondu. Et quand il n'a plus rien à dépenser pour boire, il retourne en ville et travaille sur le premier navire qui veut bien de lui, en attendant de repartir en mer.
Parangon, le reprit doucement Althea, Brachen est à bord de la Vivacia depuis des années, et il dormait toujours à bord, il me semble, quand il était au port ici.
Ah, oui, mais je parlais d'avant aujourd'hui.
Sans l'avoir voulu, il exprima tout haut sa pensée. Le temps s'écoule d'un même courant et s'en mêle quand on est aveugle et isolé. J'imagine. Elle appuya la tête en arrière contre le navire et poussa un profond soupir. Bon, eh bien, je crois que je vais entrer pour essayer de trouver un coin où m'installer avant que la lumière ait complètement disparu.
Avant que la lumière ait complètement disparu, répéta lentement Parangon. Donc, il ne fait pas encore complètement nuit.
Non. Tu sais combien les soirées sont longues en été. Mais il fait sans doute noir comme dans un four à l'intérieur. Alors ne t'inquiète pas si je trébuche de temps en temps. Elle se tut, embarrassée, puis alla se placer devant le navire. Penchée comme il l'était sur la grève, sa grande main était facilement accessible. Althea la tapota gentiment, puis la serra. « Bonne nuit, Parangon, et merci. »«
Bonne nuit, » fit-il à son tour.
« Ah oui, Brachen occupe les quartiers du capitaine. »« D'accord, merci. » Elle grimpa maladroitement le long du flanc du navire et il entendit le bruissement d'une grande quantité de tissu qui parut la gêner pour traverser le pont incliné et s'insinuer dans la cale. Fillette, elle était plus agile. En été, elle était venue lui rendre visite presque tous les jours. Elle habitait quelque part sur le versant de la colline qui le surplombait. Elle évoquait la marche qu'elle effectuait dans les bois derrière sa maison, puis les falaises qu'elle descendait pour arriver jusqu'à lui. Cet été-là, elle avait appris à bien le connaître et joué à divers jeux à l'intérieur de sa coque et autour de lui, en disant qu'il était son navire et elle son capitaine, jusqu'au jour où son père avait eu vent de ses activités. Il l'avait suivi un jour, et quand il l'avait découverte en train de parler au bateau maudit, il les avait fermement réprimandés tous les deux. Puis il avait ramené la petite chez elle à coups de badine. Pendant longtemps après cet épisode, elle n'était plus venue le voir. Quand elle lui rendait visite, c'était brièvement, à l'aube ou le soir. Mais cet été-là, elle avait appris à bien le connaître. Elle paraissait en avoir conservé quelques souvenirs, car elle traversa l'intérieur jusqu'à l'espace arrière où les hommes suspendaient habituellement leur hamac. Curieux comme de la sentir en lui réveiller sa mémoire. Crenshaw était roux et se plaignait toujours de l'ordinaire. Il était mort, là. La hache qui avait mis fin à sa vie avait aussi laissé une profonde entaille dans le planchéiage et son sang avait taché le bois. Elle se pelotonna contre une cloison. Elle aurait froid cette nuit. La coque était peut-être saine, mais cela n'empêchait pas l'humidité d'y pénétrer. Parangon percevait Althea, immobile et petite, contre lui. Elle ne dormait pas. Elle avait sans doute les yeux ouverts dans le noir. Du temps passa, une minute ou presque toute la nuit. Difficile à dire. Brachen arriva. Parangon reconnut ses grands pas et sa façon de marmonner quand il avait bu. Ce soir, l'inquiétude rendait sa voix sombre, et Parangon supposa qu'il approchait de la fin de ses fonds. Demain, il se morigènerait longuement de sa stupidité, puis il irait dépenser le reste de son argent. Alors il devrait reprendre la mer. Il manquerait presque à Parangon. Avoir de la compagnie était intéressant et mettait de l'animation dans sa vie. Mais c'était aussi agaçant et dérangeant. Brachen et Althea lui faisaient penser à des événements qu'il valait mieux laisser tranquilles.
Parangon ? Le salua Brachen en s'approchant. « Permission de monter à bord ?»« Accordé. Althea Vestrit est ici. »
un silence. Parangon avait presque l'impression de voir les yeux exorbités de Brachon.
« C'est moi qu'elle cherche ?»
demanda l'homme d'une voix pâteuse.
« Non, moi. »
Le navire éprouva un singulier plaisir à cette réponse.
Sa famille l'a jetée dehors et elle n'avait nulle part où aller. Du coup, elle est venue.
« Ah ?» Nouveau silence.
« M'étonne pas. Ma foi, plus vite elle renoncera et rentrera chez elle, plus ce sera avisé. Mais j'imagine qu'il lui faudra un moment avant d'en arriver là. »
Brachon bâilla à s'en décrocher la mâchoire.
« Elle sait que j'ai mes quartiers à bord ?»
Le ton était circonspect, comme s'il l'appelait une réponse négative.
« Naturellement, » répondit mielleusement Parangon. « Je lui ai annoncé que tu avais pris la cabine du capitaine et qu'elle devrait se débrouiller autrement. »«
Ah, bien joué, bien joué. Allons, bonne nuit. Je suis sur les genoux. »«
Bonne nuit, Brachon. Dors bien. »
Quelques instants plus tard, l'homme se trouvait dans les quartiers du capitaine. Au bout de 2 ou 3 minutes, Parangon sentit Althea se déplacer. Elle s'efforçait de ne pas faire de bruit, mais elle ne pouvait se dissimuler de Parangon. Quand elle atteignit enfin la porte de la cabine du gaillard d'arrière où Brachon avait accroché son hamac, elle s'interrompit, puis frappa très doucement sur le panneau de bois.
« Brach !» fit-elle précautionneusement.
« Quoi ?» répondit-il aussitôt. Il ne dormait pas, n'était même pas sur le point de s'assoupir.
L'avait-il attendu? Comment aurait-il pu savoir qu'elle viendrait chez lui?
Althea prit une profonde inspiration.
« Puis-je vous parler ?»«
Puis-je vous en empêcher ?» rétorqua-t-il d'un ton bourru.
D'évidence, c'était une réponse habituelle car elle ne parut pas troubler Althea. Elle posa la main sur la poignée, puis l'ôta sans ouvrir la porte, contre laquelle elle s'appuya pour demander « Avez-vous une lanterne ou une bougie ?»«
Non, c'est de ça que vous vouliez parler ?» Sa voix prenait des accents brusques.
« Non, je préfère voir la personne à qui je m'adresse, c'est tout. »«
Pourquoi ça ? Vous savez de quoi j'ai l'air ?»«
Vous êtes impossible quand vous êtes ivre. »
« Avec moi, au moins, c'est seulement quand je suis ivre. Vous, c'est tout le temps. »
Au son de sa voix, Althea parut nettement agacée.
« Je ne sais pas pourquoi je me fatigue à essayer de vous parler. »«
Dans ce cas, nous sommes deux, » fit Brachon en aparté.
Parangon se demanda soudain s'il savait avec quelle clarté il percevait leurs paroles et leurs mouvements. Constituait-il un public invisible, ou bien se croyait-il vraiment seul ?
Brachon, tout au moins, devait prendre le bateau en compte.
Althea poussa un long soupir et posa la tête contre la porte à panneaux qui les séparait.
« Je n'ai personne d'autre à qui m'adresser, et j'ai vraiment besoin de... Écoutez, puis-je entrer ? Ça m'énerve de parler à travers cette porte. »«
Elle n'est pas verrouillée, » répondit-il à contre-cœur.
Il ne bougea pas de son hamac. Dans l'obscurité, Althea poussa la porte. Elle resta immobile dans l'entrée, hésitante, puis pénétra dans la pièce à tâtons, en suivant la paroi, les jambes tendues pour éviter de tomber sur le plancher pentu.
« Où êtes-vous ? »
« Par ici, dans un hamac. Vous feriez mieux de vous asseoir avant de vous casser la figure. »
Ce fut sa seule manifestation de courtoisie. Althea obéit en prenant appui des pieds sur la pente du sol et en s'adossant à une cloison. Elle inspira pour se donner du courage.
Brachon, toute ma vie s'est effondrée au cours des 2 derniers jours. Je ne sais plus quoi faire.
Rentrez chez vous, répondit-il sans compassion. Vous finirez par y être obligé, vous le savez bien. Plus vous remettez ce moment, plus ce sera difficile. Alors faites-le tout de suite.
C'est facile à dire, mais difficile à réaliser. Vous devriez le comprendre. « Vous n'êtes jamais rentré chez vos parents, vous ?»
Brachon éclata d'un rire bref et amer.
« Ah non ? J'ai essayé, mais
On m'a simplement jeté dehors à nouveau, parce que j'avais attendu trop longtemps. Donc vous savez maintenant que je vous donne un bon conseil. Rentrez chez vous tant que c'est encore possible. En vous aplatissant et en obéissant humblement, vous y gagnerez le gîte et le couvert. Attendez trop, laissez votre réputation d'infamie s'installer, laissez-les s'habituer à vivre sans le fauteur de troubles de la famille, et ils ne voudront plus de vous, même si vous les suppliez à genoux. »
Althea garda longtemps le silence, puis elle demanda « C'est vraiment ce qui vous est arrivé ?»«
Mais non, voyons, j'ai tout inventé !» répliqua Brachen d'un ton aigre.
« Je regrette, » fit Althea au bout d'un moment. D'un ton plus résolu, elle reprit. «
Mais je ne peux plus revenir chez moi, du moins tant que Kyle est au port. Et même quand il sera parti, si je retourne à la maison, ce ne sera que pour y prendre mes affaires. »
Brachen se déplaça dans son hamac.
« Vos robes et vos babioles, vous voulez dire? De précieux souvenirs de votre enfance, votre oreiller préféré?
Et mes bijoux? Si j'y suis contrainte, je pourrai toujours les vendre. »
Brachen se rejeta en arrière dans son hamac. « Pourquoi perdre votre temps? Vous vous apercevrez vite que vous ne pouvez pas traîner partout ce barda. Quant à vos bijoux, pourquoi ne pas vous dire que vous les avez déjà récupérés, vendus difficilement un à un, que vous avez dépensé tout l'argent obtenu et qu'il ne vous reste plus qu'à vous débrouiller vraiment pour vivre votre existence? Ça vous économisera du temps et tous vos bijoux demeureront au moins dans votre famille, si Kyle ne s'est pas déjà occupé de les faire mettre sous clé. »
Un lourd silence suivit la suggestion amère de Brachen, tandis que Parangon restait plongé dans ses ténèbres sans étoiles. Ce fut d'un ton empreint de détermination qu'Althea répondit
« Vous avez raison, je le sais. Je dois agir sans attendre un événement salvateur. Il me faut du travail, et le seul travail que je connaisse concerne la navigation. Or, c'est la seule façon dont je remonterai à bord de la Vivacia. Mais jamais on ne m'engagera vêtu ainsi. »
Brachen émit un grognement méprisant.
« Soyez réaliste, Althea. On ne vous engagera jamais, quels que soient vos vêtements. Vous faites face à trop d'obstacles. Vous êtes une femme, vous êtes la fille d'Ephron Vestrit, et Kyle Havre en voudra à qui vous acceptera à son bord. »
« Pourquoi le fait d'être la fille d'Ephron Vestrit jouerait-il contre moi ?» Althea s'exprimait d'une toute petite voix. « Mon père était un homme probe ?»«
Exact. C'était un homme très probe. »
Un instant, le ton de Brachen s'adoucit. « Mais vous devez l'apprendre. Ne plus être la fille ou le fils d'un marchand n'a rien de facile. De l'extérieur, les marchands de Terrilville semblent former une alliance indestructible. Mais vous et moi sommes originaires de ce monde, et ce monde joue contre nous. Vous, par exemple, vous êtes une Vestrit. Très bien. Certaines familles négocient donc avec vous et en tirent profit. D'autres sont en concurrence avec vous, et d'autres sont alliés à vos concurrents. Nul n'est vraiment ennemi avec personne. Mais quand vous vous mettrez en quête de travail, ce sera comme pour moi.
Brachen Trail, hein? Le fils de Kelf Trail? Eh bien, pourquoi ne travaillez-vous pas pour votre famille, mon garçon? Ah, vous êtes brouillé avec elle. Ma foi, je n'ai pas envie de me mettre votre père à dos en vous engageant.
On ne vous l'annonce pas toujours aussi carrément, bien sûr. Parfois, on vous renvoie en vous disant
« Revenez dans 4 jours ».
Seulement, il n'y a personne quand vous vous présentez.
Quant à ceux qui ne s'entendent pas avec votre famille, ils ne vous engagent pas parce que ça leur fait plaisir de vous voir vous traîner dans la boue. »
La voix de Brachen se faisait plus lente, plus grave et moins audible. Et il s'endort en parlant comme souvent, songea Parangon. Il a sans doute oublié jusqu'à la présence d'Althea. Parangon n'était que trop familier des longues litanies de Brachen sur les torts et les injustices qu'il avait subies. Il était encore plus habitué à l'entendre se traiter d'un ton caustique de crétin et de moins que rien.
« Et alors, comment avez-vous survécu ?»
demanda Althea d'un ton empreint de rancœur.
« Je suis allé là où mon nom n'avait pas d'importance. Le premier bateau sur lequel j'ai embarqué était chalcédien. Les hommes se fichaient de qui j'étais du moment que j'acceptais de travailler dur et pour pas cher.
C'était la bande de salauds pourris la plus minable avec laquelle j'ai navigué. Ils n'avaient aucune pitié pour le gamin que j'étais. J'ai sauté du bord au premier port où nous avons fait relâche, et je suis reparti le même jour sur un autre navire. Ce n'était guère mieux, mais un peu quand même. Et puis, nous... La voix de Brashen mourut. Un moment, Parangon le crut endormi. Il entendit Althea s'agiter pour s'asseoir plus confortablement sur le plancher incliné. Quand je suis revenu à Terrilleville, je m'étais amariné. Ah, ça oui. Mais rien n'avait changé. Le petit Trel ceci, le fils Trel cela. Je croyais m'être construit une existence. Je suis même allé voir mon père pour essayer de nous réconcilier, mais il n'a pas eu l'air impressionné par ce que j'étais devenu par moi-même, pas du tout. Quel cul de vache! Alors je me suis rendu dans chaque navire du port, dans chacun. Aucun ne voulait du fils de Kelf Trel. Arrivé à la Vivacia, j'ai enfoncé mon mouchoir sur mon front et gardé les yeux baissés sur le pont, et j'ai demandé un travail honnête pour un marin honnête. Et votre père a dit qu'il me prenait à l'essai, en ajoutant qu'un homme consciencieux pouvait lui servir. À sa façon de répondre, j'ai été certain qu'il ne m'avait pas reconnu et qu'il me virerait si je lui apprenais mon nom. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardé et j'ai dit « Je m'appelle Brashen Trel. J'étais le fils de Kelf Trel. » Et il a répondu « Ton quart n'en sera pas plus long ni plus court d'une minute, matelot. » Et vous savez quoi? Eh bien, c'était vrai. Les Chalcédiens n'engagent pas de femmes, fit Althea d'un ton morne. Parangon se demanda ce qu'elle avait écouté de l'histoire de Brashen. Pas comme matelot, convint Brashen. Il croit qu'une femme à bord attire les serpents parce que les femmes saignent, vous comprenez. C'est ce que disent beaucoup de marins. « C'est ridicule !» s'exclama-t-elle dégoûtée. « Ouais, beaucoup de matelots sont des crétins. Regardez-nous. » Sa plaisanterie le fit éclater de rire, mais elle ne l'imita pas. « Il y a d'autres femmes marins à Terrilleville. Quelqu'un m'embauchera ?»« Peut-être, mais pas pour ce que vous espérez, » répondit durement Brashen. « C'est vrai, il existe des femmes marins. » Mais la plupart de celles que vous voyez sur les quais travaillent sur leurs navires familiaux avec leurs pères et des frères pour les protéger. Essayez de naviguer sur un autre bateau et vous aurez intérêt à choisir rapidement avec quel compagnon de bord vous voulez coucher. Avec de la chance, ils seront assez possessifs pour empêcher les autres de vous approcher. Sinon, ils tireront un maximum de vos services avant d'atteindre le port suivant. Et la plupart des capitaines et des seconds feront semblant de ne rien voir, afin de maintenir l'ordre sur le bâtiment, du moins s'ils ne prennent pas leur part eux-mêmes. » Il s'interrompit, puis ajouta d'un ton bourru, « Mais vous le saviez déjà. Vous ne pouvez pas avoir passé votre adolescence au milieu de matelots sans l'avoir appris. Alors, pourquoi envisager une telle solution ?» La fureur envahit Althea. Elle eut envie de hurler qu'elle ne le croyait pas ou d'exiger de savoir pourquoi il fallait que les hommes soient de tel port. Mais elle le croyait, et elle savait que Brashen ne pouvait pas plus répondre à sa question qu'elle-même. Le silence s'épaissit dans l'obscurité qui les séparait, et sa colère s'apaisa. « Alors que dois-je faire ? » demanda-t-elle d'un ton pitoyable. Parangon n'eut pas l'impression qu'elle s'adressait à Brashen, mais le jeune homme répondit tout de même. « Trouvez un moyen de renaître sous la forme d'un garçon, de préférence qui ne porte pas le nom de Vestrit. » Brashen s'agita dans son hamac et prit une profonde inspiration qui sortit sous forme d'un ronflement nasillard. Dans son coin, Althea soupira, puis elle appuya la tête contre le bois dur de la cloison et resta immobile et muette. Le navire esclavagiste formait une silhouette sombre sur le ciel nocturne. S'il se sentait en danger de poursuite, il n'en montrait aucun signe. Il arborait une quantité respectable de voiles, mais l'œil perçant de Kenith
ne dénotait à son bord aucune activité anormale qui indiquât le besoin d'une vitesse extrême. La nuit était parfaite. Une brise égale soufflait sur la mer, et les vagues semblaient comme des bêtes de somme qui portaient le bateau.
« Nous le rattraperons avant l'aube, » dit-il à mi-voix à Sorcor.
« Oui, »
répondit le second dans un souffle. On sentait dans sa voix une surexcitation à cette perspective que son capitaine ne ressentait pas. Par-dessus son épaule, il indiqua doucement au timonier
« Maintiens-la près de la côte, à la serrer comme ta grand-mère. Si leur vigie regarde par hasard de notre côté, je ne veux pas qu'on soit visible en pleine eau. »
Au mousse, il ajouta sur le même ton
« Descends et refais passer le mot. Pas un geste, pas de bruit, pas de mouvement, sauf pour répondre à un ordre. Et pas une lumière, pas la moindre étincelle. Vas-y, et discrètement. »
« Des serpents suivent sa proue, »
observa Kenneth.
« Ils attendent les esclaves morts qu'on jette par-dessus bord, » dit Sorcor d'un ton acide. « Et aussi ceux qui sont trop faibles pour que ça vaille la peine de les nourrir. Cela aussi passe à l'eau. »
« Et si les serpents décidaient de se tourner contre nous pendant le combat ?» demanda Kenneth.
« Pas de danger !» lui assura Sorcor. « Les serpents apprennent vite. Ils vont nous laisser nous entretuer, en sachant bien que les morts leur reviendront sans avoir à y laisser une écaille. »
« Et après ?»
Sorcor eut un sourire carnassier.
« Si on gagne, ils seront si pleins de l'équipage de l'esclavagiste qu'ils ne pourront plus nous suivre. Si on perd, »
il haussa les épaules,
« ça n'aura plus grande importance pour nous. »
Kenneth s'accouda au bastingage, muet, la mine revêche. Plus tôt dans la journée, il avait repéré l'anneau d'or, une belle et vieille vive nef qui avançait qu'à un kaa, lourdement chargée, et s'enfonçait dans l'eau de presque toute la taille de Kenneth. Ils avaient eu l'avantage de la surprise. Kenneth avait fait mettre dehors toute la voile que le gréement pouvait supporter. Et cependant, la vive nef s'était soulevée et s'était enfuie comme si une brise propre la poussait. Sorcor était resté muet pendant que Kenneth était d'abord demeuré sans mot dire, incrédule, puis avait piqué une violente colère devant la tournure des événements. Quand l'anneau d'or avait contourné l'île ronde pour y attraper un courant favorable et disparaître au loin, le second s'était risqué à remarquer
« Le bois mort n'a aucune chance contre le bois sorcier. Les vagues elles-mêmes s'ouvrent devant lui. »«
Sois maudit !»
lui avait lancé Kenneth d'un ton farouche.
« Ça m'arrivera sans doute, capitaine !»
avait répondu Sorcor d'un ton imperturbable. Il avait probablement déjà flairé la trace d'un navire esclavagiste. Ou bien c'était par sa chance infernale qu'ils avaient levé celui-ci si vite. C'était le bâtiment esclavagiste chaldéen typique, la coque profonde et la taille large pour mieux le bourrer de chair humaine. Jamais Kenneth n'avait vu Sorcor se mettre à une chasse avec tant de convoitise, prendre tant de peine à surveiller sa proie. Les vents eux-mêmes paraissaient le favoriser, et c'est bien avant l'aube que le second ordonna qu'on sortît les rames. Les balistes étaient déjà tendues, chargées de boulets et de chaînes pour déchiqueter le gréement de l'adversaire, et les grappins étaient prêts à saisir leur victime infirme.
« Voulez-vous conduire les hommes, capitaine ?»
demanda Sorcor alors que les vigies de l'esclavagiste lançaient les premières alertes.
« Non, je vais te laisser cet honneur, je pense, »
répondit Kenneth sèchement. Accoudé, oisif sur le bastingage, il abandonna la poursuite et le combat au seul Sorcor. Si le second fut déconcerté par le manque d'enthousiasme de son capitaine, il le cacha bien. Il bondit à l'avant pour crier ses ordres à ses hommes sur le pont. Ils partageaient sa soif de combat, car ils obéirent rapidement, si bien que le mât parut se couvrir brusquement de toile en plus et fleurir sous le vent nocturne. Égoïstement, Kenneth se réjouissait de cette brise, car elle emportait la plus grande partie de la puanteur de l'esclavagiste. Il se sentit presque faire partie de l'équipage quand le Marietta se rapprocha du navire. Dans une tentative désespérée de lui échapper, l'esclavagiste augmentait sa toile et son gréement était plein d'hommes qui grouillaient comme des fourmis. D'un juron, Sorcor exprima sa joie et donna l'ordre qu'on déclenche les balistes. Selon Kenith, il s'y était pris trop tôt. Mais les deux lourds boulets munis d'une épaisse chaîne longue, hérissée de pointes et de lames, s'envolèrent, déchiquetèrent les voiles et les cordages et poursuivirent leur œuvre de destruction en retombant sur le pont. Une demi-douzaine d'hommes churent avec eux en hurlant jusqu'à ce qu'ils s'écrasent sur le bois ou disparaissent dans les flots. Leur cri avait à peine pris fin que Sorcor fit lancer un nouveau jeu de boulets et de chaînes. Celui-là provoqua moins de dégâts, mais l'équipage harcelé de l'esclavagiste était trop occupé à présent à surveiller l'arrivée de nouveaux projectiles pour manœuvrer efficacement les voiles, tandis que la toile et les cordages tombés encombraient le pont et rendaient difficile de ferler de nouvelles voiles. Une pagaille totale régnait sur les ponts de l'esclavagiste quand Sorcor ordonna qu'on lançât les grappins. Avec détachement, Kenith regarda les malheureuses victimes se faire solidement ligoter. Comme l'aurore se risquait sur les eaux, Sorcor et ses pirates, en vociférant leur soif de sang, franchissaient d'un bond ou accrochés à un cordage la courte distance qui séparait les deux vaisseaux. Kenith, pour sa part, avait porté sa manche à son nez et respirait à travers le revers pour éviter d'inhaler la puanteur de l'esclavagiste. Il était resté à bord du Marietta avec un équipage réduit et manifestement exaspéré d'avoir été frustré du carnage. Cependant, quelqu'un devait bien demeurer à bord pour se tenir prêt à repousser les abordeurs ou décrocher les grappins si la situation se retournait. Kenith assista au massacre des hommes de l'esclavagiste. Ils n'étaient guère préparés à une attaque de pirates, pour lesquels leur fret ne présentait en général pas d'intérêt. La plupart des forbans, tels Kenith, préféraient les marchandises de valeur, non périssables et, si possible, facilement transportables. Or, ce navire-ci ne renfermait sous ses ponts que des esclaves enchaînés. Même si les pirates avaient accepté d'effectuer le trajet monotone jusqu'en Chalcède pour les vendre, une telle cargaison exigeait un œil vigilant et un estomac solide. Il fallait surveiller et nourrir ce genre de cheptel, l'abreuver et lui fournir un système sanitaire rudimentaire. Kenith songea que le navire en lui-même aurait quelque valeur, bien que la puanteur qui s'en échappait présentement lui donna à tout instant des haut-le-cœur. L'équipage de l'esclavagiste ne possédait que les armes dont il se servait pour maintenir l'ordre dans le fret et guère plus. « Ces gens-là, se dit Kenith, ne paraissaient pas se faire une bonne idée de la façon dont on combat un pirate armé et en bonne santé. On devait s'habituer, supposa-t-il, à frapper des hommes enchaînés et à leur donner des coups de pied. » et a oublié comment faire face à un autre type d'adversaire. Plutôt, il avait tenté de convaincre Sorcor que l'équipage et le navire pourraient représenter quelques valeurs de rançon, même sans leur cargaison. Le second s'était farouchement opposé à cette idée.
« On tue l'équipage, on libère la cargaison et on vend le navire, mais pas à d'autres esclavagistes !»
avait-il stipulé d'un air altier. Kenith commençait à regretter d'avoir laissé l'homme le regarder comme son égal. Il devenait beaucoup trop exigeant et ne paraissait pas se rendre compte à quel point cette conduite était odieuse à son capitaine. Kenith plissa les yeux, en réfléchissant à la félicité avec laquelle l'équipage accueillait les délires idéalistes de Sorcor. Cela l'eût étonné que les hommes partagent ces grandes idées de suppression de l'esclavage. Il devait plutôt se réjouir à l'avance des carnages à venir. En voyant deux de ses meilleurs matelots balancer un homme vivant par-dessus le bastingage dans la gueule d'un serpent, il hocha lentement la tête. C'étaient ces bestiales effusions de sang qui leur plaisaient. Peut-être avait-il trop bridé ses hommes pour la rançon que rapportaient des captifs vifs. Il mit cette pensée de côté pour y songer plus tard. Comme quoi, il pouvait apprendre de n'importe qui, même de Sorcor. Il fallait laisser courir les chiens de temps en temps. Mais l'équipage ne devait pas s'imaginer que seul Sorcor était capable de fournir de telles fêtes.
Il se lassa rapidement de contempler le massacre final. L'équipage de l'esclavagiste n'arrivait pas à la cheville du sien. Il n'y avait aucune organisation dans la défense de leur navire,
rien qu'une bande d'hommes qui essayaient d'échapper à la mort, en quoi ils échouèrent. La masse de ceux qui firent front au groupe d'abordage se réduisit vivement en petits groupes de défenseurs encerclés par un ennemi implacable. Le dénouement était évident et la victoire n'eut rien d'une surprise. Kenneth s'en détourna. Les hommes, en mourant, se ressemblaient tous, et cela l'ennuyait plus que cela ne l'écœurait. Les hurlements, le sang qui jaillissait ou ruisselait, les ultimes combats frénétiques, les supplications inutiles, tout cela, il l'avait déjà vu. Il était beaucoup plus éclairant d'observer les deux serpents. Il se demanda s'il n'escortait pas le navire depuis quelque temps déjà. Peut-être même le considérait-il d'un œil amical, comme une sorte de fournisseur de proie facile. Il s'était écarté lors de l'attaque du Marietta, apparemment effrayé par la soudaine agitation. Mais quand les bruits des combats et les cris des mourants s'étaient élevés, ils étaient promptement revenus. Et ils tournaient à présent autour des bateaux accrochés l'un à l'autre, comme des chiens mendiants à table, en se battant pour les morceaux de choix. Kenneth n'avait jamais eu l'occasion d'observer un serpent aussi longtemps et d'aussi près. Ces deux-là ne paraissaient pas connaître la peur. Le plus gros était d'un pourpre scintillant tacheté d'orange. Quand il dressait la tête et le cou hors de l'eau, en ouvrant la gueule, une collerette de piquant apparaissait autour de sa gorge et de sa tête, telle une crinière de lion. C'étaient des appendices charnus qui rappelaient à Kenneth les bras urticants de l'anémone ou de la méduse. Il aurait été fort étonné qu'il ne distille pas quelque poison paralysant. En tout cas, quand la plus petite des bêtes se disputait une proie avec la plus grande, elle évitait de toucher la collerette de l'autre. Le moins grand des serpents compensait sa taille inférieure par une plus forte agressivité. Il osait s'approcher beaucoup plus près du flanc du navire, et quand il dressa la tête à la hauteur du bastingage de l'esclavagiste, il ouvrit la gueule, dénudant des rangées sans fin de crocs. Alors, il siffla en projetant un léger nuage de salive venimeuse qui engloba deux hommes en plein combat. Tous deux abandonnèrent aussitôt la bataille et s'écroulèrent sur le pont en hoquetant et en se tordant dans un effort vain pour aspirer l'air dans leurs poumons. Ils retombèrent bientôt inertes, tandis que le serpent frustré battait en écume l'eau près du navire, furieux que ses proies demeurent à bord. Kenneth le supposa jeune et inexpérimenté. Le plus grand avait une attitude plus philosophe. Il se contentait de nager le long de l'esclavagiste, aux aguets des hommes qui portaient des coups jusqu'au bastingage. Il ouvrait alors la gueule et engloutissait tout ce qu'on lui jetait, mort ou encore en mouvement. Il saisissait un corps entre ses mâchoires, mais ne cherchait pas à le broyer. Ses dents ne semblaient servir qu'à déchirer. Inutile de démembrer ces petits morceaux de viande. Le serpent rejetait la tête en arrière et ouvrait sa gueule plus largement que Kenneth ne l'aurait cru possible. Puis le corps disparaissait avec les bottes et le reste, et le pirate distinguait sa progression dans le gosier par la distension de la gorge sinueuse de la créature. C'était un spectacle à la fois glaçant et fascinant. Ces hommes paraissaient partager sa révérence. Car comme le combat diminuait d'intensité et qu'il ne restait plus que des cadavres et des prisonniers dont se débarrasser, ils disposèrent leur victuaille à serpents sur le haut gaillard d'arrière du navire, et de là, nourrirent les bêtes à tour de rôle. Certains des captifs ligotés pleuraient et hurlaient, mais leurs cris étaient noyés par les rugissements d'approbation de l'équipage chaque fois qu'un corps passait par-dessus bord. Il devint bientôt un jeu de balancer chaque victime ou cadavre, non pas à un serpent, mais entre les deux, pour voir les grandes bêtes se battre pour un morceau. Les hommes demeurés sur le Marietta se sentaient frustrés d'être exclus de ce passe-temps, car même s'ils exécutaient leurs devoirs sur le bateau, c'était avec de nombreux regards en direction de leurs camarades. Les serpents perdant leur appétit, leur agressivité fondit et ils se contentèrent de manger à tour de rôle. Comme les derniers captifs passaient par-dessus bord, les premiers esclaves émergèrent sur le pont. Ils sortirent par les panneaux, en toussant et en clignant des yeux dans la lumière du matin.
Ils serraient leurs haillons contre leurs corps décharnés pour se protéger du vent vif. Comme on ôtait un panneau de cale après l'autre, l'odeur fétide de l'air augmenta, comme si la puanteur était un génie maléfique enfermé trop longtemps sous les ponts. Kenny eut un haut-le-cœur en constatant l'état de ces hommes. La maladie lui avait toujours inspiré une grande horreur, et il envoya précipitamment un homme prévenir Sorcor qu'il était temps que les navires se séparent. Il désirait une bonne distance d'eau propre entre cette coque pestilentielle et lui-même. Son messager réagit promptement, plus que volontaire pour assister de près au spectacle. Quant à Kenneth, il quitta le gaillard d'arrière et descendit dans sa cabine, où il alluma des chandelles parfumées pour couvrir l'odeur qui s'était infiltrée de l'extérieur. Quelques instants plus tard, Sorcor frappait alertement à la porte.
« Entrez !»
répondit Kenneth d'un ton brusque. Le solide second obéit, les mains rouges et l'œil brillant.
« Victoire complète !»
annonça-t-il au capitaine à bout de souffle.
« Victoire complète ! Le navire est à nous, capitaine. Et on a libéré plus de 350 hommes, femmes et enfants dessous ces vilains ponts.
D'autres frettes valables ? »
demanda Kenneth sèchement quand Sorcor se tut pour reprendre sa respiration. Le second eut un sourire complice.
« Apparemment, le capitaine appréciait les vêtements raffinés, mais il était corpulent et son goût des couleurs un peu étrange.
Alors peut-être trouveras-tu ces habits à ton goût ?»
Au ton glacé de Kenneth, Sorcor se raidit.
« Si nous en avons fini avec ce navire, je propose que nous postions un équipage réduit à son bord et que nous envoyions notre butin au port, quelque part, puisque nous n'avons que cette coque de bois en récompense du travail de cette nuit. Combien d'hommes perdus ou tués ? » ?»«
2 morts, capitaine, et 3 légèrement blessés. »
La question n'avait manifestement pas plu à Sorcor. Il s'était stupidement attendu à ce que Kenneth partage son exubérance.
Je me demande combien nous en perdrons encore de maladies. Rien que la puanteur suffit à donner la dysenterie, sans parler des autres contagions qui sont nées dans ce sabot.
Ce n'est pas la faute des gens qu'on a sauvés si on tombe malade, capitaine,
observa Sorcor d'un ton guindé.
Je n'ai pas dit ça. J'en fais plutôt reproche à notre idiotie. Bien, nous avons un navire comme récompense du mal que nous nous sommes donné. Et peut-être arriverons-nous à le vendre, mais seulement une fois débarrassé de sa cargaison et récuré à fond.
Il regarda Sorcor et, avec un sourire prudent, formula la question qui lui brûlait les lèvres.
« Que proposes-tu de faire des misérables que tu as sauvés ? Où allons-nous les libérer ?»
« On ne peut pas simplement les relâcher sur la terre la plus proche, capitaine. Ce serait un meurtre. La moitié sont malades, les autres tiennent à peine debout, et on ne peut pas leur laisser d'outils ni de provisions, à part des biscuits. »«
Un meurtre ?»
fit Kenneth d'un ton affable.
« Ah ! Voilà un concept qui nous est étranger, à toi et à moi. Encore que je n'ai pas jeté de gens au serpent de mer dernièrement. »
« Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. »
Sorcor paraissait commencer à s'énerver.
« Et mieux que ça, parce que leur sort a été rapide. »
D'un poing charnu, il se frappa la paume de l'autre main et foudroya presque le capitaine du regard. Kenneth poussa un petit soupir.
« Ah, Sorcor, je ne le discute pas. J'essaie simplement de te rappeler que nous sommes, toi et moi, des pirates. » De méchants meurtriers qui sillonnent la passe intérieure pour nous emparer de vaisseaux et de butins, pour piller et rançonner. Nous agissons ainsi pour notre propre profit. Nous ne sommes pas des infirmières pour esclaves malades, dont la moitié mérite sans doute autant leur sort que l'équipage jeté au serpent. Nous ne sommes pas non plus d'héroïques sauveurs des opprimés. Des pirates, Sorcor. Nous sommes des pirates.
C'était notre marché ?
Répondit le second, opiniâtre.
« Pour chaque vive nef qu'on pourchasse, on attaque un esclavagiste. Vous avez donné votre accord. »
« En effet, j'espérais qu'après t'être frotté à la réalité d'un triomphe, tu en verrais la futilité. Regarde-toi, Sorcor.
Imaginons que nous épuisions notre équipage et nos réserves pour amener ce navire sordide à partage. Crois-tu que les habitants vont nous souhaiter la bienvenue et se réjouir de nous voir déposer à terre 350 épaves à demi mortes de faim en haillons et maladives qui infesteront leur ville comme mendiants, putains et voleurs? Crois-tu que ces esclaves que nous avons sauvés vont nous remercier de les abandonner à leur sort sans un sou?
Ils nous sont tous reconnaissants, déclara Sorcor entêté. Et je sais qu'à mon époque, capitaine, j'aurais été sacrément content qu'on me dépose à terre n'importe où, avec ou sans une bouchée de pain, des vêtements ou non, du moment que j'étais libre et que je pouvais respirer de l'air pur.
Très bien, très bien. Kenneth capitula ostensiblement avec un soupir résigné. Montons cet âne jusqu'au bout s'il le faut. Choisis un port, Sorcor, et nous les y amènerons.
Je n'y mets qu'une condition. Sur le trajet, ceux qui en seront capables commenceront à récurer cette coque de noix. Et j'aimerais me mettre en route le plus vite possible, tant que les serpents sont rassasiés.
Mine de rien, son regard quittait celui de Sorcor. Il ne fallait pas le laisser se vautrer dans la gratitude des rescapés.
J'aurai besoin de toi à bord du Marietta, Sorcor. Mets Rafo en charge de l'autre navire et assigne-lui quelques hommes.
Sorcor se raidit.
Bien, capitaine,
répondit-il d'une voix traînante et il sortit d'un pas lourd. Ce n'était plus le même homme qui était entré plein de sa victoire. Il referma la porte sans bruit derrière lui. Kenneth resta un moment à fixer le panneau du regard. Il forçait la fidélité de l'homme, il le savait. Le lien qui les rattachait tenait surtout à la loyauté de Sorcor. Kenneth secoua la tête. C'était peut-être sa faute. Il avait pris un simple matelot sans instruction, mais avec un don pour le calcul et la navigation, et l'avait élevé au statut de second en lui faisant sentir l'effet de commander des hommes. Commander entraînait naturellement la réflexion. Mais Sorcor commençait à trop réfléchir. Et Kenneth allait bientôt devoir décider ce qui comptait le plus pour lui. La valeur du second pour contrôler l'équipage, ou bien sa propre maîtrise à lui, Kenneth, de son navire et de ses hommes. Il poussa un profond soupir. Les outils s'émoussèrent rapidement dans ce métier.